Mathieu et Camille, bonjour. David à Oloron. Je vous appelle pour vous faire part de mon dégoût par rapport à ce qui se passe dans la montagne entre le mois de novembre et le mois d'avril, voire mai, parce qu'il y a des dérogations, où une poignée de bergers foutent le feu absolument partout. C'est des dizaines de milliers d'hectares qui sont brûlés. La semaine dernière, c'était une énorme panache de fumée que certains Béarnais trouvent d'ailleurs très jolie, hein, parce que pour eux, c'est culturel. Hein, c'est la fameuse crispation culturelle sur les valeurs régionales. Mais c'est une catastrophe environnementale. Et je pense que ça, si personne n'accepte de se pencher sur le sujet, vous passez à côté d'un phénomène qui est majeur d'un point de vue climatique, biodiversité, et particules fines. Voilà. Mais il va falloir vraiment à un moment que quelqu'un mette les pieds dans le plat. Il y a des associations qui s'en chargent actuellement dans le Pays Basque. Ce sont des gens qui prennent énormément de risques. Il y en a un qui s'est fait brûler sa porcherie il y a quelques temps parce qu'il était manifestement opposant aux écobuages. Donc, soit vous continuez à éluder le problème, soit vous en parlez. Allez, ciao.
Bonjour, c'est Hélène d'Aix-en-Provence. Ben écoutez, moi, Mathieu, je voulais vous faire part de mon écœurement devant ces Jeux Olympiques d'hiver dans une ville où il n'y a pas de neige. Je suis scandalisée et j'espère que d'autres personnes le sont autant que moi. Je trouve qu'on devrait les boycotter, ces Jeux Olympiques. J'ai entendu une athlète, tout à fait mignonne et dont j'admire les performances sportives, mais qui trouve, il n'y a pas de neige, il y a de la neige artificielle, ça la dérange pas plus que ça, quoi. Voilà. Eh bien, moi, ça me dérange beaucoup, et je ne regarderai pas ces jeux.
Bonjour, je m'appelle Maud, j'habite Réguigny, et je profite du répondeur de la TAC pour vous faire connaître le projet sur lequel notre équipe franco-allemande de jeunes travaille. Face à la fulgurante destruction de la biodiversité, notamment à cause des activités humaines et du changement climatique, on a pour ambition de sensibiliser à sa protection. Pour ça, on va réaliser un tour à vélo de la Gironde en mars pendant environ 15 jours sur 500 km et passer par des réserves naturelles. Nos objectifs sont multiples. Faire de la vulgarisation scientifique sur les questions de biodiversité en s'appuyant sur les réseaux sociaux et un blog. Deuxième objectif, redonner l'envie aux gens de se reconnecter à la nature. Troisième objectif, inspirer les gens qui nous suivent pour qu'ils agissent à leur échelle pour la biodiversité. Et enfin, promouvoir ce que peut faire l'Union européenne pour protéger cette biodiversité. Pour nous suivre, nous soutenir et en savoir davantage, allez sur notre compte Instagram, Pédaler pour la biodiversité. À bientôt peut-être. Merci.
Merci pour vos messages, amis de la Terre au carré. Camille Cronier et Mathieu Vidard, toujours à l'isolement pour cause de Covid, bien sûr, vous ont écouté et ont eu connaissance des messages que vous leur avez laissés. Continuez à nous faire part de vos indignations ou de vos initiatives pour faire bouger les choses. Je vous redonne le numéro de notre répondeur, 01 56 40 45 45. Lorsque l'on offre des fleurs ou que l'on en reçoit, on peut être ravi, ému, gêné, voire tout ça à la fois. Mais on se pose rarement la question de la provenance et des conditions de culture des roses, des tulipes et autres hortensias que l'on a entre les mains. D'ailleurs, il est rare que l'origine des fleurs que l'on achète soit mentionnée chez les fleuristes. Pourtant, si nos bouquets pouvaient parler, ils nous en apprendraient de belles. La plupart effectuent de très longs voyages avant d'arriver dans nos vases. À ce bilan carbone désastreux s'ajoutent des méthodes de culture qui font appel à des produits interdits dans l'Union européenne. Alors, quelles substances contiennent exactement nos bouquets? D'où viennent-ils? Et surtout, comment choisir des fleurs locales et de saison? C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités. Hugo Clément, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous avez réalisé une grande enquête sur le sujet. Le reportage dont nous sommes partenaires s'intitule « Saint-Valentin, que cachent nos bouquets ?» Il sera diffusé ce soir à 21h sur France 5. Également avec nous, Hortense Aran. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes créatrice de Fleurs d'ici, une plateforme en ligne de livraison de fleurs locales et de saison. Et enfin, à distance, depuis la Belgique, Bruno Schiffers. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur agronome, spécialiste de la protection des végétaux et professeur honoraire de phytopharmacie à l'université de Liège en Belgique. Avec vous trois, nous allons donc nous intéresser au business méconnu des fleurs coupées et à ses conséquences désastreuses sur l'environnement. Et puis vous répondrez bien sûr aux messages et aux questions des auditrices et des auditeurs qui arrivent sur la page de La Terre au Carré sur franceinter.fr. Il est toujours possible aussi de nous laisser une note vocale avec l'application France Inter. Puis on passera au vert avec Camille Cronier en attendant le retour de Camille en chair et en os. Nous réécouterons l'une de ses chroniques sur la chasse à la marmotte. Ce n'est pas parce qu'elle hiberne en ce moment qu'il faut se désintéresser de leur sort. Voilà pour le sommaire de cette émission. Le dossier a été préparé par Chantal Lemontagnier et c'est Valérie Ayestaraï qui réalise cette émission avec à la technique aujourd'hui Laurent Baudouin.
Daniel Fievé. La Terre au Carré. Sur France Inter.
Est-ce que vous avez une idée de la provenance de toutes les fleurs qui sont vendues ici ?
De la France, j'imagine.
J'étais en Europe, mais je sais pas dans quel pays.
Je pense qu'elles viennent de Hollande, principalement.
Vos fruits et légumes, vous les achetez bio souvent ?
Ben oui.
Et les fleurs ?
Quelques passants que vous avez interrogés avant de vous lancer dans votre enquête sur la face cachée de nos bouquets, Hugo Clément, qui sera diffusé ce reportage ce soir sur France 5. Qu'est-ce qui vous a conduit à mener cette grande enquête sur les fleurs coupées ?
Ben c'est une interrogation en fait de se rendre compte que chez aucun fleuriste, quasiment aucun fleuriste, la provenance des fleurs n'était indiquée. Et c'est vrai qu'on fait de plus en plus attention en tant que consommateur à ce qu'on mange, à la provenance de nos fruits et légumes notamment. Et les fleurs, je m'étais jamais posé la question personnellement quand j'achetais un bouquet pour l'offrir ou quand je recevais des fleurs, quelle était la provenance de ces fleurs-là. Et on s'est posé la question avec mon équipe, on a commencé à gratter un peu. Et ce qu'on a découvert est assez ahurissant.
Oui, alors vous avez notamment pour ce reportage fait analyser une analyse chimique de 5 bouquets de fleurs achetés chez différents commerçants, hein, supermarchés, fleuristes, enseignes spécialisées. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'ont donné ces analyses ?
Ah bah c'est des résultats assez édifiants. Hein. On a découvert dans tous les bouquets de roses, hein, ce sont des bouquets de roses qu'on a achetés, chez des fleuristes, aussi en supermarché, vous l'avez dit. Dans tous les bouquets qu'on a fait analyser, on a découvert un très grand nombre de pesticides sur les roses. Et le plus grave, j'ai envie de dire, c'est que certains de ces pesticides qu'on retrouve à forte concentration dans certains bouquets sont interdits en Europe, sont interdits d'usage en Europe, mais se retrouvent quand même dans les fleurs qui sont vendues en Europe et notamment en France.
Hortense Arend, comment expliquer justement la présence de ces molécules interdites pour les cultures en France ?
Le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle aujourd'hui aux frontières de l'Union européenne, même si il y a évidemment des questions de passeport sanitaire, etc., mais qui ne sont pas du tout mises en œuvre. Donc aujourd'hui, c'est vrai que, étant donné que 85% des fleurs sont importées, il y a de fortes chances qu'elles aient été produites dans des pays qui ont une réglementation environnementale beaucoup moins stricte que la réglementation française, et par conséquent, qui sont effectivement bourrées de substances chimiques qui sont parfois interdites par l'Union européenne.
C'est-à-dire, hein, vous venez de le dire, 85% des fleurs qui viennent de l'étranger. Ça veut dire qu'en France, on n'a jamais cultivé de fleurs ou que la filière de la culture des fleurs s'est effondrée.
Elle a totalement périclité. C'est un peu ça la tristesse. C'est que là où on a 9 fleurs sur 10 qui sont importées, on a 9 horticulteurs sur 10 qui ont disparu dans les 50 dernières années. En 1972, il y avait à peu près 30 000 horticulteurs en France. Partout en France, hein, dans toutes les régions. C'est pas réservé à la Côte d'Azur. Aujourd'hui, il en reste à peine 3 500. Donc, effectivement, on a vu une chute vertigineuse de ces productions parce que sous les coups du lobby de la fleur importée qui, elle, n'a eu de cesse que de faire baisser le prix de cette matière première au détriment, évidemment, des coûts sociaux et environnementaux que ça engendre.
Oui, sachant que derrière ces jolis bouquets de fleurs se cache une guerre économique sans merci, hein. C'est une manne financière, un chiffre d'affaires colossal, le marché de la fleur en France.
C'est tout à fait méconnu, effectivement, mais c'est 12 milliards d'euros par an en France, la filière du végétal. Ouais. Et la fleur, c'est à peu près entre 3 et 5 millions, 5 milliards pardon, en fonction des calculs. C'est-à-dire que c'est plus important que le marché de l'horlogerie, par exemple. Donc c'est quand même un très gros marché.
Alors Bruno Schiffers, vous le spécialiste de ces produits phytosanitaires, il n'a pas eu de chance, Hugo Clément, avec ses 5 bouquets de roses analysés, avec 40 produits plutôt dangereux, en tout cas résidus de produits phytosanitaires, il n'a pas eu de chance, ou dans la quasi-totalité des bouquets sur le marché, les résultats auraient été le même?
Oui, en fait, c'est tout à fait constant de trouver un grand nombre de résidus de produits phytosanitaires sur les fleurs. Donc, nous avons mené, nous, une étude complète ici en Belgique, dans le cadre d'une thèse de doctorat. Et on a analysé non seulement des bouquets de roses, mais également des gerberas et des chrysanthèmes, aux périodes où on les vend les plus, c'est-à-dire en fait la Saint-Valentin, la fête des mères, ou alors au moment de la Toussaint. Et sur quelle que soit l'espèce, on a toujours trouvé des quantités très importantes en nombre de composés différents, mais également en concentration. Donc il n'est pas rare de trouver jusqu'à des 35-40 substances actives différentes sur un bouquet, et d'avoir des concentrations qui sont nettement plus élevées, par exemple, que les résidus qu'on peut trouver dans nos aliments ou sur nos produits alimentaires.
Ouais. En fait, sur les bouquets, c'est beaucoup moins contrôlé. Hein. C'est ce que nous disait Hortense Aran à l'instant. Aux frontières, il n'y a pas de contrôles qui sont effectués?
En fait, il y a des contrôles pour la partie qu'on appelle phytosanitaire, c'est-à-dire pour des organismes nuisibles qu'on pourrait introduire en achetant ces fleurs à l'étranger. Mais en ce qui concerne les résidus de pesticides, il n'y a aucune obligation de les contrôler parce qu'en fait, il n'existe pas de normes. Il n'y a pas de ce qu'on appelle limite maximale en résidus, les LMR, comme on les a par exemple pour les fruits et légumes.
Mais alors Bruno Schiffers, à quel point sont-ils dangereux ces pesticides, ces produits phytosanitaires ou ces résidus, ce qu'il en reste sur les bouquets?
Le problème, évidemment, c'est que ce sont toujours des produits qui sont quand même assez agressifs, notamment pour la peau, mais qui peuvent être aussi toxiques, évidemment, si on les avale. Alors, le risque, il est essentiellement pour les personnes qui vont manipuler ces fleurs coupées à longueur de temps, c'est-à-dire les fleuristes. Nous avons fait, nous, une étude qui concernait l'exposition essentiellement des fleuristes, en observant la façon dont ils préparaient et dont ils arrangeaient les bouquets. Il faut savoir que ces personnes travaillent en moyenne 6 jours par semaine, jusqu'à 8 heures par jour. Donc ils ont un contact avec leur peau, via les mains, via les bras, avec ces fleurs qui sont très contaminées. Et ils absorbent par la peau de grandes quantités de produits qu'on peut retrouver dans leurs urines.
Oui. Alors, c'est dangereux pour les fleuristes, c'est aussi dangereux pour les employés qui, à l'autre bout du monde, cultivent ces plantes. Hugo Clément, vous êtes allé en Éthiopie, dans une grande ferme où on fait pousser des roses. C'est un Français qui tient cette ferme horticole. Et il vous a donné accès à la réserve où sont entreposés les produits qu'il utilise pour cultiver ces roses.
Alors là, il y a du hypron. C'est pour quel usage?
Fongicide.
Fongicide.
Un produit pour éliminer les champignons, qu'on n'a plus le droit d'utiliser en France.
Le hypron, c'est un produit qui a été retiré dans l'Union européenne en 2017, parce qu'il est cancérigène. Vous le saviez, ça?
Non.
Ça vous surprend?
Non.
L'horticulteur semble découvrir que certains pesticides qu'il utilise sont interdits en Europe.
Il y a du TOG3. TOG3, c'est un désinfectant?
Oui.
Retiré.
Ah, aussi?
De l'Union européenne, oui. Car il y a certaines substances actives qui sont considérées comme toxiques. Et après, il y a du Goldazim. Il a été retiré en 2014 du marché européen. Qu'est-ce que vous dites aux Françaises et aux Français qui découvre avec ces images les conditions dans lesquelles les roses sont produites ici en Éthiopie?
On applique certains produits qui sont probablement illégaux en France, mais à mon avis, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas les manger.
Hugo Clément, il n'avait l'air pas très au courant et pas très sensible au danger qu'il utilise pour faire pousser ces roses et puis au risque qu'il fait courir à ses employés.
Oui, effectivement, il avait l'air de découvrir en tout cas qu'un certain nombre de produits étaient interdits. Et puis ce qui nous a vraiment marqué, c'est l'absence de protection. Oui. Pendant qu'on tournait, ils ont enfilé des combinaisons. Ils nous ont un peu avoué à demi-mot que c'était la première fois qu'ils les utilisaient parce que c'était pas pratique pour travailler. Stéphane, le propriétaire de l'exploitation, lui, il se balade pendant les épandages sans aucune protection. Donc il y a vraiment une exposition énorme à ces produits toxiques des gens qui travaillent dans ces serres et qui y travaillent tous les jours avec des épandages qui sont plusieurs fois par semaine dans des quantités astronomiques. Mais ce que nous dit cet horticulteur, il nous dit moi, si j'utilise plus ces produits ici, je suis plus compétitif, je peux plus faire ces cultures de roses, parce qu'évidemment le fait de les cultiver en Éthiopie avec des produits interdits, avec des salaires qui sont des salaires évidemment beaucoup plus bas qu'en Europe, ça permet à ces horticulteurs d'être compétitifs et de pouvoir arroser le marché européen avec leurs fleurs.
Alors nous ne sommes pas au bout de nos surprises hein, sur ce qui se cache derrière nos bouquets de fleurs, nous allons le voir dans la suite de cette émission, nous allons essayer de comprendre comment on en est arrivé là, et surtout vous allez nous expliquer comment on pourrait continuer à s'offrir des fleurs en évitant tous ces pesticides et ces bilans carbone désastreux, parce qu'il faut aussi les transporter, hein, toutes ces fleurs.
Si tu m'aimes demain, on sera des stars à 70-80 qui se cachent leurs gars, qui rêvent plus loin. Si tu m'aimes demain, on brodera des fleurs sur nos jeans troués, on dessinera aux fans des cœurs. Si tu m'aimes demain, on regardera Paris la semaine en émeute, le week-end on fuira la ville. Si tu m'aimes demain, la télévision, ils passeront nos chansons, fausse poésie, on sera peut-être des cons. Se voir la vie à deux, dommage, j'irai pas mieux. Devoir se dire adieu, contourner pas heureux, se retrouver comme de vieux. Faut que si tu m'aimes, pas seulement si tu veux. Mais si tu m'aimes demain, je ferai un tas de photos dans les chambres d'hôtel. Toi tu me peindras sur le dos. Si tu m'aimes demain, dans les soirées chics, les cheveux en pagaille, on se fera la malle, on donnera des disques. Si tu m'aimes demain, je t'achèterai une plage, le temps d'un été, loin des journaux qui crieront scandale. Si tu m'aimes demain, dans un photomaton, on laissera de gros bisous, incognito, on sera peut-être des cons. Se voir la vie à deux,
si tu m'aimes demain. C'était Iliona sur France Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
Dans la banlieue d'Amsterdam, précisément la ville d'Alsmeer. Cet entrepôt, c'est le plus grand marché aux fleurs de toute l'Europe. Le bâtiment est aussi étendu que l'État du Vatican.
C'est impressionnant, on dirait vraiment une fourmilière. Ça s'arrête jamais, quoi. Il y a un chariot qui passe toutes les secondes.
Le signal GPS est formel. Nos hortensias bretons se trouvent sur un de ces chariots. Ce sont peut-être ceux-là.
Ces hortensias, ils viennent juste d'arriver ?
Yes.
Oui, la nuit dernière.
OK. Et donc là, ils partent où ?
Most flowers.
Ils sont exportés dans toute l'Europe.
Within Europe.
Notre bouquet d'hortensias peut donc partir pour le Royaume-Uni, la Suède, l'Italie, la Pologne. Pour le savoir, il faut être patient et attendre que notre petit point bouge.
Un extrait du reportage Saint-Valentin, que cachent nos bouquets, qui sera diffusé ce soir sur France 5 à 21h. Une enquête que vous signez, Hugo Clément. Alors vous avez suivi, on l'a compris dans cet extrait, à la trace, un bouquet d'hortensia qui avait poussé en Bretagne. La première étape, c'est donc ce gigantesque hangar avec à cet endroit des volumes de fleurs colossaux.
Oui, c'est un bâtiment très impressionnant, hein, vous l'avez entendu, il fait à peu près la taille de l'État du Vatican, donc c'est vraiment un bâtiment énorme, ils écoulent plusieurs milliards de fleurs chaque année, et c'est devenu la plateforme incontournable en Europe pour tous les fleuristes, tous les grossistes qui veulent se fournir en fleurs, tout passe par là, et on a même montré dans l'émission, en allant en Bretagne chez un cultivateur d'hortensia, on a attaché un traceur GPS à un des bouquets, on savait qu'il partait vers les Pays-Bas, mais on voulait savoir ce qu'il allait devenir ensuite. Et donc effectivement, on a suivi le trajet de ce bouquet, il est parti de Bretagne, il a traversé la France pour aller jusqu'aux Pays-Bas, et puis après une journée ou deux aux Pays-Bas, à notre grande surprise, il est revenu chez nous, il est revenu en France pour atterrir chez un fleuriste en banlieue parisienne, et donc on a réalisé qu'en fait il y avait un fonctionnement complètement aberrant avec cette centralisation aux Pays-Bas, c'est-à-dire qu'il y a des bouquets qui étaient produits en France, vendu en France, mais qui entre-temps passait par les Pays-Bas pour être négocié et acheté. Et c'est un peu cette mondialisation de l'absurde qu'on a voulu montrer sur le sujet des fleurs.
Oui, et aberration au carré, puisque justement, juste à côté, en Bretagne, de l'endroit où ce cultivateur cultive ses hortensias, un fleuriste vend des hortensias qui viennent de Colombie et qui sont certainement passés par Amsterdam, enfin par la Hollande, avant d'arriver chez lui. C'est vrai que là, on se rend compte, Hortense, que vraiment, il y a une débauche d'énergie pour faire voyager ces fleurs sur des temps très courts, parce qu'avant qu'elles fanent en plus, donc il faut faire ça en quelques jours.
Et c'est d'ailleurs tout le problème, c'est que précisément pour qu'elles puissent supporter de tels traitements, évidemment elles sont traitées. Moi je dis elles sont botoxées, ces pauvres fleurs, pour qu'elles puissent supporter du voyage. Alors, on arrive même à faire venir maintenant des fleurs de Colombie en bateau. Donc c'est pour vous dire, ça prend à peu près un mois. Enfin voilà. L'absurdité effectivement, c'est qu'aujourd'hui, à cause de, comme vient de le dire Hugo Clément, avec cette absurdité de la mondialisation, on fait voyager des fleurs sur des milliers de kilomètres, alors que parfois c'est pour revenir précisément à quelques kilomètres de l'endroit où elles ont été produites. Mmh. Et justement, en fait, c'est à ça qu'on essaye de s'attaquer chez Fleurs d'ici. Il ne s'agit pas du tout de stigmatiser les fleuristes, qu'il est pauvre en fait. Ce fleuriste de Viroflay, il ne sait pas d'où il achète ses fleurs. Il n'y a aucune traçabilité en fait dans ce marché. Donc, il s'agit de stigmatiser personne. Il s'agit de remettre un peu de sens dans la façon dont on travaille et de recréer des liens commerciaux et logistiques de proximité. Tout le monde parle des circuits courts, etc. Mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait exister les circuits courts sur ce marché de la fleur, mais aussi sur les autres, à grande échelle.
On a une idée du coût carbone, du bilan carbone d'un bouquet de 30 roses, par exemple?
Alors, un bouquet de 25 roses importées, c'est l'équivalent carbone d'un Paris-Londres en avion, effectivement. Donc, c'est un coût carbone qui est extrêmement lourd, pas seulement à cause du transport, mais aussi des conditions de production. On le voit bien dans le documentaire. Les fleurs du Kenya, d'une certaine façon, elles polluent moins en termes de bilan carbone, malgré qu'elles prennent l'avion, parce que les fleurs qui, elles, poussent en Hollande sont chauffées et éclairées 24 heures sur 24, et donc, par conséquent, c'est une débauche d'énergie fossile pour chauffer et éclairer ses serres.
Oui, ça, Hugo Clément, c'est aussi une autre découverte un peu malheureuse que l'on fait dans votre film. Vous avez filmé à l'intérieur, alors cette fois-ci en Hollande, d'une ferme où on fait pousser des roses, mais c'est vraiment de façon industrielle, racontée.
Ah oui, c'est des serres immenses. Hein. Quand vous êtes à l'intérieur, vous en voyez pas le bout. Et la serre où on est allé, ils sortent à peu près, ils sortent plusieurs centaines de milliers de roses chaque jour. Donc c'est vraiment une production énorme. Et il y a pas de nuit pour ces roses-là. C'est-à-dire que même au cœur de la nuit, quand il fait noir, quand il fait sombre, ils allument des gros spots pour stimuler les roses et leur faire croire finalement que c'est la journée, afin d'accélérer au maximum leur croissance et de pouvoir sortir des roses à un rythme très élevé. Donc la serre où on s'est rendu, une seule exploitation, d'après les chiffres que nous a donné la directrice de l'exploitation, cette serre, elle consomme à peu près autant d'énergie à l'année qu'une ville de la taille de Lens. Oui. Donc c'est vraiment énorme. On se rend absolument pas compte de ce bilan. Et ces fleurs, elles sont aussi évidemment traitées avec des produits
qui ne sont pas interdits en Europe, puisque c'est cultivé en Europe, mais elles sont quand même abondamment traitées.
Oui, parce que alors c'est à tout moment de l'année, en toute saison, on produit ces roses qui se ressemblent toutes, hein, qui sont archi-clonées, et qui mettent 6 semaines pour pousser, Bruno Schiffers, pour faire pousser hors sol des roses aussi rapidement. Il faut forcément utiliser beaucoup de produits phytosanitaires.
Ah ben forcément, oui, il faut traiter parce que quand vous avez une concentration de plantes sensibles, ben vous avez très rapidement des maladies et puis le développement soit d'acariens ou d'insectes dans les serres. Et puis il faut utiliser aussi beaucoup d'engrais. Et donc ce dont on n'a pas parlé, c'est aussi la pollution environnementale qui se passe sur les lieux de production, que ce soit au Kenya pour le lac Naivasha, ou en Éthiopie, dans l'exemple qui est développé dans le reportage, où on a tous les jus qui contiennent ces engrais, ces pesticides qui vont dans le lac, qui provoquent une eutrophisation et un empoisonnement complet de la chaîne alimentaire avec les poissons qui sont contaminés, etc. Donc c'est une véritable catastrophe écologique locale aussi. Hein.
Ouais, ça, vous l'avez constaté au Kenya, dans le reportage, on le constate en Éthiopie, des lacs dont les poissons meurent, des maladies aussi, on imagine, pour les habitants.
Oui, on pompe l'eau déjà, donc il y a déjà aussi un manque d'eau. On a un développement anarchique des plantes comme l'Echornia crassipes, la jacinthe d'eau. Donc, et les gens qui vivent et qui boivent cette eau, qui vont s'en servir pour cuisiner, etc., bah, ils vont absorber évidemment les résidus de pesticides qui sont présents dans l'eau.
Alors une autre façon hein, de s'offrir des fleurs est possible, on va l'aborder dans cette émission, on ne va pas rester sur ce constat assez dramatique et accablant. Nous allons poursuivre notre discussion sur la face cachée de nos bouquets de fleurs et voir comment certains tentent de proposer des alternatives plus respectueuses de l'environnement. Mais c'est l'heure de passer au vert avec Camille Cronier.
France Inter. La Terre au carré.
Et pendant que Camille se repose à l'isolement, nous vous proposons une rediffusion d'une de ses chroniques consacrée à un animal qui lui aussi se repose à l'isolement en ce moment en pleine hibernation.
Oui, je vous parle aujourd'hui d'un animal qu'on connaît bien et qui a bonne réputation surtout, icône même de certaines pubs, souvenez-vous.
Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu.
Mais bien sûr.
Voilà, la célèbre marmotte avec ses petites dents et sa petite tête mignonne de peluche qu'on a le droit de chasser au Canada par exemple, où il y a même des tournois de chasse à la marmotte.
Ça fait au moins 20 ans que des événements du genre sont organisés. La queue la plus longue, le siffleux le plus noir, des prix sont remis selon les critères.
Le siffleux, c'est comme ça qu'on dit marmotte au Canada, où comme ailleurs en Amérique du Nord, elle est inscrite parmi les nuisibles. Ce qui n'est pas le cas en France. La marmotte n'est pas considérée comme nuisible, mais elle est inscrite depuis le 26 juin 1987 sur la liste des espèces chassables.
Moi je suis tombé sur les fesses quand j'ai vu que cette chasse existait.
Alors c'est Loïc Dombreval qui parle, il est député de La République En Marche des Alpes-Maritimes et il a découvert donc qu'on pouvait encore chasser la marmotte en France dans certains départements de montagne, dont le sien, les Alpes-Maritimes. Le député a envoyé un courrier à la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili pour lui demander de retirer la marmotte de la liste des espèces chassables et voilà pourquoi.
La marmotte c'est pas un animal qui prolifère dans nos montagnes. C'est pas un animal qui gêne les biotopes. C'est pas un animal qui gêne les écosystèmes. C'est pas un animal qui est agressif. C'est un animal d'ailleurs qui subit énormément de problèmes en ce moment, qui sont liés au réchauffement climatique et qui sont liés aussi au fait que les promeneurs, voyant la marmotte, animal sympathique et emblématique des montagnes, leur filent à bouffer du chocolat, des chips, c'est ce que vous voulez. Et en fait, ça pose aussi des problèmes sur la reproduction de cet animal. Et sur le fait qu'elles deviennent de plus en plus parfois domestiques.
Alors les chasseurs rebondissent justement là-dessus pour contre-argumenter. J'ai appelé le président de la Fédération des chasseurs d'un des départements concernés, la Haute-Savoie. Il s'appelle André Munier.
C'est pas les chasseurs qui posent un problème à la marmotte aujourd'hui. Qui posent un problème à la marmotte aujourd'hui. En tout cas dans notre département, c'est l'aigle royal qui est un grand prédateur de la marmotte. Ce sont les patous qui sont là pour garder les troupeaux parce qu'on a un autre prédateur qui nous fait un mal considérable en Haute-Savoie, c'est le loup. Et ce sont aussi tous les randonneurs avec des chiens qui ne sont pas en laisse. Voilà le mal de la marmotte. Ce n'est pas la chasse qui est responsable.
Alors, quelle est d'ailleurs la situation des marmottes en France et la menace principale pour elles? Est-ce que, en fait, la chasse fait partie de ces menaces? J'ai demandé à Sylvia Pardonnet, qui les suit, les marmottes, depuis plusieurs années dans la Vanoise. Elle est technicienne au laboratoire de biométrie et biologie évolutive de l'Université de Lyon 1.
sans vouloir être trop polémique, je pense que la marmotte est un animal qui est très mignon, qui plaît beaucoup de manière générale à la population, et donc sa chasse, c'est une image qui est très mauvaise, mais en soi, ça représente pas le risque majeur, hein, vraiment pas.
C'est plutôt en fait la réduction des habitats avec de plus en plus de présence humaine au-delà des 1000 mètres où on les trouve et le réchauffement climatique.
Les marmottes, ce sont des espèces qui hibernent, donc elles ont besoin d'avoir beaucoup de neige pour être à une température stable sous la Terre. Et donc avec le réchauffement climatique, on retrouve plus ces conditions d'enneigement pendant l'hiver. Et donc du coup, il y a un risque pour elles d'avoir des grosses différence de température entre la nuit et le jour pendant l'hibernation, et donc de devoir beaucoup plus utiliser leurs réserves de graisse pendant l'hibernation, et donc de se réveiller avec des réserves amoindries, donc beaucoup moins d'énergie à allouer notamment à la reproduction.
La chasse n'est donc pas une menace réelle pour leur survie, d'autant que les prélèvements sont faibles. 10 par an en Haute-Savoie, par exemple, une quinzaine dans les Alpes-Maritimes, d'après les relevés des fédérations locales. Mais c'est le principe même que le député, par ailleurs vétérinaire, Loïc Dombreval, dénonce.
Je ne comprends pas cette chasse. Encore une fois, sans aucun motif qui puisse expliquer les raisons pour lesquelles on a chasse, sinon l'amusement. Sinon le ludique.
Mais les chasseurs, eux, avancent l'un de leurs arguments phares.
C'est une chasse ancestrale, quoi. Et aujourd'hui, nous, on a quelques chasseurs qui pratiquent encore. Ça leur fait encore plaisir et il ne faut pas leur priver de ce plaisir.
La tradition pour justifier certaines pratiques jugées obsolètes dans l'époque et la société qui sont les nôtres, au regard du bien-être animal en particulier, est interdite récemment. Hein, on a parlé il y a quelques jours, la chasse à la glu, par exemple, ou celle utilisant des filets ou des cages pour les oiseaux. Ça ne tient plus pour Loïc Dombreval.
Est-ce que c'est une bonne tradition? Au prétexte qu'elle est ancestrale, non?
Alors la ministre n'a pas encore répondu à sa demande, mais une éventuelle interdiction pourrait être la goutte d'eau à quelques mois de la présidentielle. Et alors que les chasseurs, au sujet des marmottes, ils ont une dernière cartouche, si je puis dire.
C'est un animal qui se mange également.
Ah bon, ça se mange comment la marmotte?
Ah ben ça se mange comme un autre gibier. Comment vous mangez du chamois? Comment vous mangez du cerf? Comment vous mangez une vache? Même chose. Donc on arrête de faire ces comparaisons stupides, excusez-moi.
Pas sûr que Camille ait été convaincue de goûter au ragoût de marmotte suite à cet échange. Et c'était une rediffusion de Camille Passauvert à retrouver en podcast sur franceinter.fr. Hugo Clément, vous êtes, je crois, actuellement en montagne. Vous confirmez, hein, pas une marmotte à l'horizon, elles sont encore en pleine hibernation?
Pas une marmotte à l'horizon, effectivement. J'en ai pas vu.
Une réaction sur ce débat sur la chasse à la marmotte?
Bah, écoutez, ce que dit le représentant des chasseurs est vrai. La chasse à la marmotte, c'est pas la première cause de disparition, enfin en tout cas d'affaiblissement de cette espèce. Ça, c'est incontestable. Mais ça n'a pas de sens de continuer à exercer une pression via la chasse, même si cette pression est faible, sachant que ce sont des espèces qui sont déjà fragiles par ailleurs. Donc la chasse et la marmotte, c'est un exemple, hein, mais il y en a plein d'autres. On pourrait parler du tétralyre, par exemple, qui continue à être chassé alors que c'est une espèce qui est très fragile, ça rajoute une couche par-dessus les autres menaces qui existent, et la seule raison, et le chasseur le dit lui-même, c'est de se faire plaisir, c'est de s'amuser. Et ça, c'est plus un argument qui est entendable aujourd'hui. On est face à un effondrement de la biodiversité qui s'accélère, et le plaisir, la tradition, n'est plus un argument justifiable pour continuer à tuer des animaux.
En revanche, on peut continuer à se faire plaisir en s'offrant des fleurs du moment qu'on les choisit bien. On va reprendre notre discussion sur la face cachée de nos bouquets de fleurs avec nos invités dans un instant. Et puis les nombreuses questions des auditeurs qui arrivent pour vous. À tout de suite. You are a sister, you want me dead. Now I am dead, sir. I am upset. I want you dead, girls. I am upset. Now you are dead, though. We are upset, sir. Life is dead, sir. Now you are dead, though. We are upset, sir. We want to live, but life is dead, sir. Killed you and then you said I want to kill you despite I'm dead. Don't worry, you will get yours. Then I died and because of that it incapacitated me to live. Then I died and because of that it c'était Cannibal qui chantait Life is Dead.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Daniel Fievé sur France Inter.
Et on s'intéresse cet après-midi au business méconnu des fleurs coupées, à ses conséquences désastreuses sur l'environnement, avec nos invités cet après-midi. Le journaliste Hugo Clément, dont le reportage Saint-Valentin, Que cachent nos bouquets, sera diffusé ce soir à 21h sur France 5. Hortense Aran, créatrice de Fleurs d'ici, une plateforme en ligne de livraison de fleurs locales et de saison. Et Bruno Schiffers, professeur honoraire de phytopharmacie à l'université de Liège, en Belgique. Bruno Schiffers, il y a cette question de Marcel qui arrive sur la page de l'émission. Les pots de fleurs sont régulièrement agrémentés de particules de polystyrène qui se retrouveront tôt ou tard dans la nature. N'est-ce pas là tout de même une responsabilité des distributeurs ?
Bonne question. Oui, évidemment, tout ce qui est produit, je vais dire, de type polymère, plastique, etc. Il y a énormément, d'ailleurs, de plastique utilisé aussi dans les plantes ornementales. Ça va générer des déchets qui vont mettre énormément de temps à se décomposer, hein, si on intègre ça dans les composts.
Et parfois, quand on achète un bouquet, il y a un petit sachet à mettre dans l'eau des fleurs. Qu'est-ce qu'il contient, ce petit sachet ? Est-ce qu'il faut s'abstenir de l'utiliser ?
Non, ça c'est pas, ce sont pas des produits qui sont dangereux. En général, ils permettent de conserver la fraîcheur du bouquet. Mais il est également intéressant de couper, par exemple, un centimètre en biais, dit-on, de la base de la fleur pour que on puisse absorber, enfin que la plante puisse continuer à absorber l'eau et garder sa turgescence, donc éviter de faner trop vite. En général, ce sont des désinfectants qu'on va mettre dans l'eau. Donc, ce ne sont pas des produits phytosanitaires.
Nina nous écrit, apparemment un peu énervée, « Continuer à taper sur le dos de la filière florale tous les ans à la même époque, soit dit en passant, une semaine avant la Saint-Valentin. Mais à quand un sujet sur la taxe Valor, profond racket gouvernemental, point d'interrogation. Pour finir, des solutions plus clean et naturelles existent et de plus en plus d'acteurs de la floristerie y tendent. Il serait temps de les mettre à l'honneur. » C'est ce qu'on a prévu de faire dans cette émission. Mais d'abord, dites-nous, Hortense Aran, c'est quoi cette taxe Valor dont nous parle Mina.
La taxe Valor, c'est une sorte d'impôt qui est prélevé sur les fleuristes. C'est une taxe, une cotisation volontaire obligatoire, cherchez la contradiction, qui est mise en place par le ministère de l'Agriculture pour organiser le dialogue avec la filière. Voilà. Et donc, c'est censé effectivement fluidifier les échanges entre les fleuristes et le gouvernement.
Elle nous reproche de taper sur le dos de la filière florale. Ça n'est évidemment pas le but de cette émission, c'est une prise de conscience collective sur d'où viennent nos fleurs et comment elles sont cultivées, et puis surtout, comment on pourrait faire différemment.
Oui, je pense que c'est très important, merci de le redire, on n'est pas là effectivement pour détourner les Français du fait d'acheter les fleurs, au contraire.
Il y a trois jolis bouquets autour de cette table que vous nous avez apportés.
C'est tout à fait indiqué pour la Saint-Valentin d'acheter des fleurs, redisons-le. En revanche, c'est vrai que c'est aussi un moment, effectivement, le moment de la Saint-Valentin, c'est le pic annuel de consommation des fleurs. C'est presque un quart du chiffre d'affaires des fleuristes qui se fait juste sur cette journée. Donc c'est une journée très importante pour eux. Donc il ne s'agit pas évidemment de leur faire baisser leur chiffre d'affaires. Il s'agit juste de dire que des alternatives existent et qu'on n'est pas obligé, contrairement à ce que répètent les fleuristes industriels et les grossistes, de passer par des fleurs d'importation et qu'on peut tout à fait travailler avec de la fleur locale et de saison. C'est pour ça que nous, chaque année, on fait une campagne, on dit pas de roses à la Saint-Valentin. Mais en revanche, il y a des anémones, des renoncules, du mimosa, il y a toutes sortes de fleurs. Nous, cette année, on propose des pavots. Ouais. Et voilà. Et donc, c'est tout à fait possible de faire autrement.
Et pour les roses, il faut attendre quelle saison alors pour s'offrir des roses si ce n'est pas la Saint-Valentin ?
Eh bien, comme vous verrez, si vous vous promenez dans un jardin, les roses, c'est plutôt de mai et ça peut aller même jusqu'au mois de novembre. Donc, on a quand même une saison assez longue, mais ouais, c'est pas au mois de février.
Et puis, elles peuvent être évidemment cultivées en France. Hugo Clément, vous êtes allé à la rencontre de résistants, un peu combattants, qui se remettent à cultiver des roses. Quelles roses cultivent-ils en France ?
Ah ben ça, en fait ils font des, mais Hortense peut aussi vous en parler parce que elle est dans cette séquence. Ils font des recherches en fait pour trouver des nouvelles variétés de roses qui pourraient être cultivées en France dans des conditions respectueuses de l'environnement et qui pourraient venir concurrencer ces roses qui viennent de l'autre bout du monde avec dans le produit dans les conditions qu'on a décrites. Je me permets d'ajouter ma pierre à l'édifice à ce que vient de dire Hortense. L'idée de ce documentaire, de ce reportage, c'est absolument pas de taper sur les fleuristes qui la plupart du temps subissent cette situation. Nous, les fleuristes qu'on a rencontrés, ils nous disent qu'ils n'ont pas le choix en fait aujourd'hui de passer par les Pays-Bas, par ces fleurs qui viennent de l'étranger, parce que sinon ils auraient quasiment rien à proposer dans leur boutique. Mmh. Donc l'idée c'est d'informer le consommateur et de permettre au consommateur d'accompagner la reconstruction d'une vraie filière horticole française qui respecte les normes françaises et qui respecte la saisonnalité des fleurs, tout simplement. On peut continuer à produire des fleurs sans avoir un impact désastreux sur l'environnement.
Parmi les fleuristes qui nous écrivent, il y a Paul. Bonjour, je suis fleuriste depuis 4 ans. Je connais bien le problème des fleurs qui viennent de loin. Je les vois chaque semaine à Rungis, nous dit-il. Pour faire du business comme fleuriste, il faut n'en avoir rien à faire de l'origine et de l'écologie. Même la fédération est bien muette au sujet de ces problèmes. À Rungis, les commentaires sont « Ces écologistes nous emmerdent. Ils veulent casser une filière qui marche. » Pour exemple, on trouve en ce moment à Rungis des œillets qui viennent de Colombie et d'Éthiopie.
Alors même que, comme vous le verrez dans les bouquets qu'on a pu apporter aujourd'hui, il y a des œillets en France, même en Île-de-France, à cette saison. Donc en fait, effectivement, c'est l'absurdité, c'est celle que pointait Hugo tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est celle de la mondialisation où on fait voyager des variétés sur des milliers de kilomètres, alors même qu'elles sont disponibles localement. Mais ce qu'il manque, c'est le lien logistique qui fait le lien, le pont entre des producteurs locaux et des fleuristes locaux.
Mais Bruno Schiffers, qu'est-ce que ça implique de produire en France des roses sans utiliser tous ces produits phytosanitaires que l'on utilise ailleurs ?
Ce qu'il faudrait faire, évidemment, c'est avoir des recherches qui permettent d'avoir des stratégies de lutte biologique. Donc ça existe en fait. Hein. J'ai vu par exemple au Kenya, dans certaines serres, on utilise des petites araignées, donc des acariens qui sont antagonistes d'autres acariens qui eux sont nuisibles. Donc il y a des solutions qui existent, des solutions biologiques qui permettent de contrôler les insectes. Il y a moyen aussi de développer des plantes résistantes pour lutter contre les maladies. Et puis il y a aussi la façon de gérer la serre, mais donc voilà, il serait possible théoriquement de faire de la fleur bio, mais ça coûte évidemment beaucoup plus cher et ça va diminuer le prix, enfin ça va augmenter fortement le coût de production, donc c'est pas tellement souhaité par les producteurs. Mais ouais. Ce qui est dramatique dans cette histoire et dont on parle pas trop quand même aujourd'hui, c'est le problème des fleuristes, parce que les fleuristes sont pas du tout informés des quantités, de la diversité des produits toxiques qui sont sur les fleurs. Mmh. Ils les mettent vraiment au contact de leur peau, notamment sur les bras, sur le torse, dans les mains, qu'ils portent à la bouche. Ils mangent et ils fument en même temps qu'ils travaillent. Donc, moi, j'ai retrouvé quand même plus d'une quarantaine de résidus, une quatorzaine de métabolites dans leurs urines. Donc, quand on fait des analyses d'urine, on s'aperçoit que les produits ont bien pénétré à l'intérieur du corps et que ces gens sont exposés à longueur d'année.
Alors, pour les fleuristes, c'est effectivement manifestement un vrai danger. Pour les clients, les consommateurs, enfin consommateurs, en tout cas ceux qui achètent ces bouquets de fleurs, qu'est-ce qu'on risque à respirer ces fleurs ?
Bah, les consommateurs ne risquent pas grand-chose, en fait, parce qu'en général, on met les fleurs en faible quantité. On n'a quand même pas des centaines de fleurs dans la maison et puis on ne les manipule pas énormément. Maintenant, malgré tout, en prenant le bouquet, on va quand même en avoir sur les mains. Donc je conseille vivement de vous laver les mains quand vous avez manipulé des bouquets de fleurs. Mais de nouveau, pour les professionnels qui restent dans les magasins, et on pourrait aussi parler, bien sûr, de ce qu'on appelle les grandes surfaces. Chez nous, on appelle ça des garden centers. On aime bien en Belgique les vocables anglo-saxons. Alors, toutes ces serres où on va chercher les plantes, y compris les week-ends, parfois en t-shirt, et qu'on va manipuler, qui ont été aussi traités, hein, parce que, évidemment, on essaye de les protéger contre les ravageurs, et les personnes qui vont chercher ça dans ces grandes surfaces ne sont pas conscients que ces plantes ont été traitées et qu'elles peuvent se contaminer simplement en les ramenant chez elles et en les manipulant.
Hortense Aran.
C'est pour ça que c'est important, effectivement, de mettre l'accent sur le fait que les fleurs, elles doivent être locales, mais aussi de saison. Parce que, en fait, Bruno Schaeffers fait état de traitements phytosanitaires. Ça, on en a besoin quand on fait pousser une fleur hors saison ou hors sol, dans des conditions qui ne sont pas naturelles. Si on respecte le rythme des saisons et qu'on favorise les variétés qui poussent naturellement, localement, il n'y a pas de problème, en fait. Le problème, c'est qu'on a standardisé l'offre. On a mis dans la tête des gens qu'il fallait des roses à la Saint-Valentin, alors que, à nouveau, il y a d'autres variétés qui existe. Si on fait appel à de la flore locale, produite en petite quantité aussi, parce que comme le disait Bruno Schaeffers, les maladies, elles se développent quand on produit énormément sous une très grande serre et que du coup, on rend la production extrêmement vulnérable. Et dans ces cas-là, effectivement, c'est indispensable d'avoir des traitements, etc. Mais si on arrive à fragmenter la demande et à faire une agriculture plus résiliente parce que diversifiée, dans ces cas-là, on n'a plus vraiment de problème.
Alors, Marceline nous dit, n'oubliez pas de dire qu'il y a des fleuristes qui travaillent en 100% français et favorisent les productions locales. C'est notre cas depuis 2009 chez Fleurs de Mars à Bordeaux. Voilà, petite
bravo,
pub.
Bravo Fleurs de Mars.
Nous lançons même cette année, nous dit-elle, notre propre production en Dordogne sous le nom Champ Tigré, fleurs bio, locales et de saison. C'est possible, merci. Voilà, c'est dit, Marceline. Et on va continuer de s'intéresser justement à toutes ces initiatives dans la dernière partie de cette Terre au Carré consacrée à nos bouquets de fleurs.
Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mélocotte, nous, elle est maman. J'en sais rien, viens de moi la main. Pour aller où, j'en sais rien, viens. Papa, il a une grosse voix, tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien, viens de moi la main. Mélocotone, mémé, elle rit souvent, tu crois qu'elle est toujours contente. J'en sais rien, viens de moi la main. Périnée, elle est grande, presque comme maman, pourquoi elle joue pas avec moi? J'en sais rien. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. Pourquoi? J'en sais rien, viens de moi la main. Dis, Mélocotone, tu crois qu'il nous aime? Ma petite boule d'or, j'en sais rien, viens, donne-moi la main.
C'était Colette Mani qui chantait Mélocoton et c'est Thierry Dupin qui signe la programmation musicale de cette Terre au Carré.
France Inter, la Terre au Carré.
Bonjour monsieur.
Je viens chercher un bouquet pour ma femme.
Oui, je vous propose donc des fleurs de saison et de France. On a des anémones, renoncules en ce moment.
Les anémones, c'est ça?
C'est ça, absolument.
Très bien.
Ok, moi je vous prépare ça. Le message des roses rouges, effectivement, c'est ce qu'il y a de plus classique pour la Saint-Valentin. Maintenant, nous, on s'est permis de poser la question à nos clientes la première année de notre installation pour savoir ce qu'elles préféraient. Et comme réponse massive, on a eu des fleurs de saison, des bouquets champêtres et pas du tout la rose rouge. Hein. Vraiment, ça a été clair. Donc, on s'est fié à ça et on a proposé des fleurs françaises de saison. Et plus, chaque année, j'achète moins de roses rouges à la Saint-Valentin.
Marie, fleuriste au Mans, qui vend des fleurs locales et de saison, Hortense Aran, c'est encore une exception en France, ce type de pratique, ou ça se développe de plus en plus?
Bah de plus en plus, vous voyez, il y a Marie, de Maison Marguerite, avec qui fait partie de la plateforme Fleurs d'ici. Il y avait tout à l'heure Marceline de Fleurs de Mars qui a envoyé une question qui fait aussi partie de Fleurs d'ici. On a la chance aujourd'hui d'avoir près d'un millier de fleuristes sur les 12 000 que compte la profession qui sont à nos côtés pour justement défendre ce message de la fleur française. Mais il faut quand même avoir en tête effectivement que faire reposer une boutique exclusivement sur de la flore française, c'est très compliqué. Oui. Donc c'est pour ça qu'il s'agit à nouveau pas de jeter la pierre aux floristes. Ils font bien ce qu'ils peuvent. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Mais on peut pas faire une croix complètement sur la rose rouge. D'un coup, d'un seul, c'est forcément un chemin, c'est une transition. Mais voilà, c'est une transition vers une profession plus durable dans tous les sens du terme. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un mouvement qui est très populaire.
Et on doit tous s'y mettre, y compris nous, consommateurs, quand on va acheter nos fleurs, se renseigner aussi sur leur provenance, savoir aussi si elles sont de saison. Par exemple, vous nous avez amené trois très beaux bouquets. Comme je suis pas très fort en fleurs, je ne les ai pas toutes reconnues. Qu'est-ce qu'il y a dans ces bouquets? Ce sont des fleurs de saison. On peut y aller à la Saint-Valentin si elles ont été produites en France.
À la Saint-Valentin, vous trouverez des renoncules, des anémones, des tulipes, des œillets, des mufliers,
du mimosa,
du magnolia, du pavot. Ouais. Bref, il existe des centaines de variétés qui poussent en France en cette saison. De grâce, privilégiez-les.
Et en plus, ces bouquets sentent très bon parce que les fleurs qui viennent de loin et qui sont botoxées, comme vous l'avez dit, elles ne sentent plus rien. Catherine nous dit, toutes ces fleurs industrielles, en particulier les roses, n'ont plus aucun parfum. L'essence même de la fleur a été perdue.
L'âme de la fleur, on dit, pour un parfum, une âme. Effectivement, on est en train de tuer l'âme des fleurs et aussi, comme l'a dit Bruno Schaeffers, on intoxique les fleuristes. Mmh. Donc en fait, il est bien évident que les fleuristes, s'ils peuvent travailler autrement, il n'y a pas de doute sur le fait qu'ils le feront. Il s'agit pour ça, à nouveau, voilà, de faire en sorte de reconstruire cette filière, d'encourager les horticulteurs à s'installer, de limiter la perte des horticulteurs en générant de la demande. Et donc ça, c'est grâce à vous et aux auditeurs qu'on peut réussir à le faire. Demandez des fleurs locales quand vous allez chez votre fleuriste.
Et puis reniflez-les, si elles sentent bon, c'est bon signe. Hein. Comment ça se fait ça, Bruno Schaeffers, que les fleurs perdent leur âme, leur bonne odeur quand elles sont traitées?
Je crois que c'est surtout une question de sélection de variétés. Hein. Ouais. On a sélectionné des plantes pour leur forme et la vision qu'on en, disons leur qualité visuelle et très peu évidemment pour leur parfum.
Quel regard porte l'ingénieur agronome, professeur en phytopharmacie que vous êtes sur ces nouvelles pratiques? Vous avez l'impression que ça se développe, il y a un renouveau de la filière en France et en Belgique, puisque vous êtes en Belgique.
Oui, il est évident que l'avenir, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus durable et de revenir, je vais dire, à une utilisation raisonnée des produits phyto, parce que quoi qu'on en dise, malgré tous les plans qu'on a de réduction de l'usage des produits phyto, on voit que rien fondamentalement n'a changé. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment changer de paradigme et essayer de changer les conditions de production pour qu'il n'y ait plus besoin d'utiliser autant de produits phyto. Et comme on l'a dit, ça va prendre du temps cette transition. Les techniques sont là. Nous avons la possibilité de le faire.
Hortense Arend, à quelques semaines de l'élection présidentielle, vous avez lancé une pétition pour que les candidats s'engagent. Donnez-nous les trois mesures qui permettraient d'améliorer les choses et rendre nos bouquets plus vertueux.
Et oui, parce que pour que les choses changent, il faut à la fois que les consommateurs changent, mais il faut aussi que l'État prenne sa responsabilité. Donc, première mesure, indiquer la provenance des fleurs. Donc, faire en sorte que, comme pour les fruits et légumes, quand vous achetez des fleurs, ce soit marqué de quel pays ou de quelle région elles viennent. Deuxièmement, évidemment, renforcer les contrôles aux frontières pour que les fleurs qui ont été traitées avec des pesticides interdits par l'Union européenne ne puissent plus rentrer. Troisièmement, favoriser les fleurs locales dans les marchés publics, puisqu'à nouveau, l'État est une grande puissance et a la capacité d'acheter et donc d'entraîner la filière avec elle par la demande.
Où on signe si on veut vous suivre sur ce coup-là?
On signe sur change.org et pour retrouver le lien, allez sur notre site fleurdici.fr, fleurs au pluriel.
Hugo Clément, au terme de cette enquête, vous êtes optimiste? Dans quel état vous êtes?
Oui, je suis plutôt optimiste parce que je pense que le plus important, c'est que le consommateur ait les informations, en fait. On peut pas prendre des décisions en connaissance de cause si on ne sait pas ce qui se cache derrière les produits qu'on achète. À partir du moment où on sait, on peut chercher des alternatives, on peut se tourner vers des productions plus responsables. Donc, je suis très optimiste. Et puis, quand je vois le travail que fait notamment Hortense et puis tous les autres acteurs de la filière qui essayent de changer les choses en mieux, je suis très optimiste. Et maintenant, quand j'achète des fleurs, je fais très attention et j'achète que des fleurs si je sais qu'elles sont locales. locales et de saison. Et finalement, c'est pas beaucoup plus cher. Parfois même, c'est le même prix qu'un bouquet de fleurs industrielles. Et ça vaut vraiment le coup.
Votre reportage, Hugo Clément, dont nous sommes partenaires, s'intitule « Saint-Valentin, que cachent nos bouquets ?» Il sera diffusé ce soir à 21h sur France 5. Merci à tous les trois, Hugo Clément, Hortense Aran et Bruno Schiffers, pour cette terre au carré fleurie.